Avant de commencer ma présentation, je souhaiterais remercier M. René Lavergne qui m'a invité à son émission pour vous présenter l'ouvrage de l'historien Hu Han intitulé Le premier empereur des Ming. Cet ouvrage relate l'histoire de Chu Yanjan, qui est le premier empereur des Ming et dont le parcours est celui d'un homme du peuple au destin hors du commun. Né en 1328 et étant issu d'une famille de paysans pauvres, il commence sa vie comme gardien de troupeaux, puis moine mendiant. Puis devient ensuite général des armées, qui lui permettra par la suite de se proclamer roi de Wu, puis il réussira enfin à atteindre le sommet de l'échelle sociale en devenant le fondateur et le premier empereur de la dynastie Ming, sur laquelle il va régner de 1368 à 1398. Cette dynastie Ming va d'ailleurs prospérer en Chine jusqu'en 1644. Le récit de Chu Yanjan commence en 1344. Il a alors 16 ans. Et il vit une période tragique de son existence, car le canton où il vit à Taiping est touché par la sécheresse et les épidémies, ce qui provoquera beaucoup de morts, dont ses parents, qui étaient trop pauvres pour se payer des remèdes ou un médecin. Livré à lui-même, il décide de rejoindre un monastère et devient moine novice. Cependant, on ne peut pas dire qu'il mène une vie des plus agréables, car les moines, dira-t-il, sont crasseux et ignares et incapables d'aligner trois phrases sur la doctrine du bouddhisme. Ils se serviront même de lui comme souffre-douleur en l'humiliant régulièrement. Alors cette attitude, cette décadence justement des moines bouddhistes s'explique par le fait que on vit à cette période de la Chine une période assez difficile, assez trouble. Et il y a beaucoup de Chinois issus de la population qui ont commis des crimes, des délits, et qui pour échapper à la justice vont, ou pour se repentir même des crimes qu'ils ont commis, vont décider du coup d'entrer dans un monastère pour se mettre au service de Bouddha, afin justement de pouvoir racheter leurs fautes. C'est justement ce qui explique cette décadence des moines bouddhistes. Et pour certains, cela aussi permettra justement, comme Chu Yanjan, de ne pas mourir de faim et aussi également d'être dispensé du travail des champs qui était à l'époque un travail pénible. Mais au bout de 50 jours, les moines supérieurs sont contraints de chasser Chu Yanjan du monastère, n'ayant plus les moyens de le nourrir. Chu Yanjan va alors devenir moine mendiant. Ce statut va lui permettre de ne pas mourir de faim, car les Chinois de l'époque étaient très croyants et superstitieux, et de riches propriétaires fonciers vont lui offrir l'aumône, dans l'espoir de pouvoir ainsi gagner leur place au paradis. En 1348, il a 20 ans et son errance prend fin. Il peut alors rentrer au monastère où il peut enfin approfondir ses connaissances de l'écriture chinoise. Mais Chu Yanjan ne reste pas longtemps au monastère. En mars 1352, il décide ensuite de partir rejoindre les Turbans Rouges, qui sont également appelés l'Armée Rouge. Donc ce sont des vagabonds et des révoltés issus majoritairement des classes paysannes. On les a appelés les turbans rouges parce que, en signe de reconnaissance, ils avaient l'habitude de se mettre un turban rouge autour de la tête. Et justement, ces turbans rouges étaient aussi le nom d'une secte religieuse dont la discipline consistait justement à mettre en avant la doctrine de l'arrivée d'un roi des Lumières, c'est-à-dire un homme qui serait l'élu envoyé par le ciel pour chasser la dynastie actuelle des Yuan, qui est une dynastie mongole qui va régner de 1279 à 1368 et qui fut justement fondée par Kubilai Khan, un des petits-fils de Genghis Khan. La révolte des Turbans Rouges a commencé en 1351 et Shuangdi, qui est l'actuel empereur, se montre totalement désintéressé des révoltes de ces populations chinoises, auxquelles s'ajoutent les guerres que se livraient ses généraux depuis la conquête du pouvoir depuis la mort de Genghis Khan, ainsi que la famine, les mauvais traitements et la misère quotidienne que subissait son peuple. À cela s'ajoute également une corruption généralisée. Shuangdi, lui, n'avait d'intérêt que pour ses plaisirs personnels. Et c'est justement ce qui aura pour effet de plonger cette dynastie dans le déclin. Car avec l'installation des Yuan, s'était également installé le règne des violences aveugles, des pillages, des viols, des tueries, qui aura justement pour effet de renforcer la haine du peuple des Chinois à l'égard de cette dynastie. La vie des Chinois était aussi devenue une succession d'interdits. Par exemple, il y avait l'interdiction de pratiquer la chasse, les arts martiaux, l'interdiction également de faire allusion à l'histoire de la Chine avant la domination mongole. La vie des Chinois était devenue misérable, exploitée, isolée et même soumise. Donc, lors de son arrivée dans la ville de Haochou, en 1352, Chu Yanjan rencontre le maréchal de l'armée rouge, Gao Zuxin, qui accepte de le prendre dans son armée, car il vit dans l'apparence de ce jeune garçon qu'il était robuste, courageux et plein de détermination. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'était pas trompé. Car Chu Yanjan apprend les arts martiaux, pourtant interdits, ainsi que le maniement des armes, et il devient très rapidement aux yeux du maréchal ainsi que des autres soldats, un modèle de bravoure, de sagesse, de loyauté, de générosité et d'intelligence. Et il apprend vite, car il parvient même à repousser l'armée jaune de Chuo Chuo, qui est le premier ministre de l'empereur Shuangdi. En fait, le nom l'armée jaune, c'est en opposition avec l'armée rouge, et le jaune était aussi la couleur symbolique de l'empereur à cette époque. Voilà pourquoi cette armée s'appelait l'armée jaune. Donc, Chuo Chuo, le premier ministre de l'empereur Shuangdi, était considéré comme un grand chef de guerre et un des rares justement à se préoccuper de l'intérêt de l'État. Et paradoxalement, c'est justement ce dévouement qui causera sa perte. Car Chuo Chuo sera accusé par l'empereur Shuangdi d'avoir dilapidé l'argent du trésor public dans des expéditions ruineuses, et il sera condamné à l'exil. Et durant son exil, il sera empoisonné pour être sûr justement qu'il ne revienne pas. C'est une façon de se débarrasser définitivement du problème. Ce fut sans doute la grosse erreur justement de l'empereur Shuangdi de se débarrasser de son premier ministre Chuo Chuo, car il était justement sans doute le seul encore capable de pouvoir sauver la dynastie des Yuan. Les rebelles justement de l'armée rouge forment des bandes armées avec à leur tête des généraux, et parmi eux se trouvait Chen Liulian, qui fut considéré comme le plus puissant et le plus courageux, qui n'a d'ailleurs pas hésité à se proclamer empereur. Chu Yanjan parvient même par la ruse à se débarrasser de Chen Liulian en 1664, et pour se débarrasser de lui, Chu Yanjan va s'allier à un de ses généraux et ils vont lui tendre une embuscade, et Chen Liulian mourra d'une flèche dans la tête. En 1367, n'ayant plus d'ennemis importants à part l'empereur, Chu Yanjan va alors se déclarer roi de Wu. Et le 28 juillet 1368, l'empereur mongol Shuangdi finit par prendre la fuite et se réfugie dans les steppes de Mongolie. Ce qui permettra justement le 2 août 1368 à Chu Yanjan de rentrer dans Pékin après 450 ans de domination mongole. Puis le 4 décembre est une date importante dans l'histoire. Le 4 décembre 1368, est une date importante dans l'histoire de la Chine, puisque c'est à cette date qu'il fonde sa dynastie Ming et qu'il choisit la ville de Nankin comme capitale. Une fois devenu empereur, nous pourrions être amenés à penser que le sort de la population paysanne s'améliore, comme l'avait promis le nouvel empereur, Chu Yanjan, afin de s'approprier le soutien de son peuple. Eh bien, il n'en fut rien. Les propriétaires fonciers continuent de maltraiter les paysans, et comme Chu Yanjan se disait l'empereur des Chinois et de tout ce prêt à en devenir, les propriétaires mongols, qui avaient accepté de lui prêter allégeance, ont pu continuer de garder leurs terres et de maltraiter justement les populations paysannes qui vivaient sur leurs terres. L'empereur en a conscience, mais il ne s'en soucie guère. Il disait d'ailleurs « le peuple se mate tandis que les privilégiés s'achètent ». La priorité pour l'empereur était avant tout de consolider son pouvoir, qui était encore fragile, dû à la corruption qui était toujours présente. Pour parvenir à consolider son pouvoir, l'empereur va mener une politique de terreur, qui s'accompagne par l'encouragement de la délation et la mise en place de réseaux d'espions dans tout l'empire, au point que la vie privée n'existe plus. Il avait d'ailleurs ajouté « l'armée sert à réprimer et l'administration sert à gouverner ». Il va alors également créer un collège impérial qui a plutôt les allures d'un camp de concentration. Ce collège impérial sera créé en 1369 et aura pour but de former des mandarins, mais ce seront plutôt justement des chiens de garde à la solde du pouvoir. Car là aussi, dans ce collège impérial, sera mis en place un système de surveillance et de répression qui s'accompagneront de tortures et provoquera beaucoup de suicides de la part des étudiants. En 1394, il va d'ailleurs y avoir un élève de ce collège impérial qui va dénoncer ces tortures, et en réponse à ces dénonciations, il sera décapité et sa tête sera mise au bout d'une pique à l'entrée du collège pour éviter toute nouvelle contestation. D'ailleurs, beaucoup de ces mandarins qui se trouvaient justement dans cette école ne s'y trouvaient pas d'ailleurs pour étudier, mais plutôt pour rester en vie. Donc ça en dit long justement sur les persécutions qui pouvaient y avoir au sein de cet établissement. La liste des châtiments était variée. On pouvait y retrouver de l'empalement, des écorchements, des pendaisons. Et pourtant, l'ironie de l'histoire, c'est que cette école est devenue une réussite. Pourquoi est-elle devenue une réussite? Parce que l'empereur a réussi justement à créer des machines à tuer qui justement craignaient l'empereur et dont la peur les rendirent fidèles. Le gouvernement de l'empereur fut celui de l'injustice, de la cruauté aveugle, de la tyrannie absolue et d'une terreur totale dont les massacres vont perdurer pendant 20 ans. Toutefois, il y a quand même eu des bons points au niveau du règne de l'empereur, notamment en termes de diplomatie. L'empereur préférait justement focaliser son empire sur la Chine méridionale et il voulait éviter justement les conquêtes qui nécessitaient des opérations maritimes coûteuses. car ceux entrepris par les Mongols avaient été désastreuses. Par exemple, quand Shuangdi avait voulu faire assassiner son premier ministre Chuozhou pour l'accuser d'avoir justement dilapidé l'argent du trésor impérial, eh bien en fait, Chuozhou ne s'est inscrit que dans une politique de continuation. Cette situation économique désastreuse était déjà présente au temps justement des premiers empereurs de la dynastie Yuan. Par conséquent, Chu Yanzhan, lui, préférait que des pays comme la Corée, le Japon, le Laos ou même du Tibet restent des pays tributaires, c'est-à-dire des pays soumis à un tribut annuel, mais en échange, ces pays avaient justement la possibilité de pouvoir rester autonomes sur leur politique intérieure. Chu Yanzhan participait également à un peu de commerce avec les Tibétains. Par exemple, il leur donnait du thé et eux, les Tibétains, en échange, leur donnaient des chevaux. Mais l'économie de la Chine restait surtout concentrée sur une économie chinoise essentiellement agricole et dont l'Empire, justement, disposait d'une main-d'œuvre nécessaire pour mener à bien cette politique agricole. Dès le début de son règne, Chu Yanzhan décide de déclarer illégales toutes les sectes qu'il qualifia de diaboliques, dont la religion qui prévoyait l'arrivée d'un nouveau roi des Lumières, et dont justement l'empereur Chu Yanzhan s'était inspiré pour créer sa dynastie, car le mot Ming signifie en chinois lumière. Et Chu Yanzhan décide de déclarer ses sectes hors la loi et considère également ses adeptes religieux comme des trouble-fées. Parce que, étant donné qu'il y a toujours de la corruption et que le sort justement de la paysannerie ne s'est pas amélioré, beaucoup justement de Chinois au sein de la population vont considérer Chu Yanzhan comme étant un usurpateur et donc ils croient toujours en l'arrivée d'un roi des Lumières. Et donc du coup ces sectes vont se réfugier dans la clandestinité, vont toujours perdurer, et ce sera justement les sectes religieuses ainsi que la corruption qui vont être les défis, les deux plus grands défis de l'empereur à éradiquer durant son règne. L'empereur était également atteint de paranoïa, qui s'accentue au fur et à mesure de son règne. Il se sentait persécuté et il avait peur. Peur de mourir, peur de l'ennemi, au point qu'il en fera des nuits cauchemardesques. Il voulait éviter de perdre ce qu'il avait acquis si durement. Il ira même jusqu'à tuer tous ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, y compris son premier ministre, Ruo Huaihong. Il voulait tout contrôler par lui-même et éviter que des ambitieux ne cherchent à évincer sa descendance, car il savait par exemple que son petit-fils avait une personnalité trop douce, et donc il veillera justement à faire le ménage avant de quitter ce monde en 1398.